André Hernandez, on se retrouve pour cette troisième partie de ce 12e Radio Barque. Alors, on a évoqué avec vous, donc, en fin de seconde partie, les relations entre, alors, vous, l'aglo, enfin, je sais pas comment vous dites, l'aglo, la com.
La communauté de communes.
Oui, mais c'est long à dire, alors on a tendance à raccourcir un petit peu. Enfin, c'est une aglo aussi.
Ça va être raccourci très bientôt. Puisqu'on a proposé au dernier conseil communautaire un raccourcissement de l'appellation.
Voilà, d'accord. Mais bon, en fait, c'est comme une aglo, hein, en réalité.
Hein, tout à fait.
Fonctionner de la même façon, que ça soit ville ou pas ville,
tout à fait.
Ça revient.
On a des compétences qui sont similaires.
Et un fonctionnement tout à fait. Oui, donc on avait remarqué, donc, le maire est récemment élu, donc n'était pas tout à fait en phase avec vous. Vous avez vous-même évoqué certaines pistes. Un dernier point quand même, puisqu'il faut parler franchement. Le fait que vous ayez embauché M. Izard en tant que vous, directeur de cabinet, est-ce que ça n'a pas mis un petit peu d'huile sur le feu aussi ?
Alors bon, c'est possible que ça ressente de la sorte. Mais moi, je vais vous dire quand même comment moi je le ressens. Si vous voulez, d'abord, bon, j'ai pas beaucoup apprécié la façon humiliante dont a été traité son dossier, d'autant plus que M. Izard avait décidé de quitter la mairie. C'est normal, hein. Un DGS, lorsque...
Oui, c'est un poste...
Donc il devait partir. Bon, alors on a trouvé quelque chose, une maladresse, on en a fait une montagne, alors que finalement ça a accouché d'une souris et qu'il a fallu se contraindre pour la ville à payer les 80 et quelques mille euros et finalement une sanction minime. Bon, mais c'est pas ça. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Izard donc fait partie des administratifs de la ville de Lézignan, comme d'autres d'ailleurs qui sont venus me rejoindre, comme M. Raymond qui est le DGS, comme M. Azaïs qui est le directeur technique. Ce sont des gens de très grandes compétences et on leur doit beaucoup. Alors, évidemment, je veux parler des élus passés, je veux parler de Pierre Tournier, de Michel Maïc et de leurs équipes, mais ces administratifs qui les ont accompagnés sont beaucoup pour le développement de la ville. Que si aujourd'hui il y a un nouveau collège, il y a un lycée, il y a une Milcom, il y a un RAM, etc., etc., et l'expansion qu'a pris la ville de Lézignan, on le doit aussi à ces élus que je viens de nommer, mais aussi à ces administratifs qui avaient grande compétence pour les accompagner. Donc je ne souhaiterais pas qu'on s'imagine que ces gens n'ont pas de valeur. Ils ont une très très grande valeur et d'ailleurs aujourd'hui pour moi, ils me rendent d'énormes services dans l'exercice de ma fonction.
Voilà, et on comprend donc pourquoi vous avez embauché M. Izard. Alors venons maintenant à vos responsabilités. Alors GEMAPI, c'est un sigle qui veut dire gestion des eaux.
Alors gestion des milieux aquatiques et protection inondation pour le PI. Il y a deux volets.
Voilà, oui. Bon, voilà. Protection des inondations.
Oui,
ça,
le PI, c'est protection des inondations.
Voilà, ça c'est très important parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Gestion des eaux, c'est moins évident. Alors, ça fonctionne sur ce qu'on appelle des bassins versants. Expliquez, André Hernandez, comment ça se configure.
Alors, si vous voulez, vous prenez les gouttes d'eau qui tombent dans une contrée. Toutes ces gouttes d'eau, si elles vont dans la même rivière, elles forment ce qu'on appelle le bassin versant. Donc, tout ce qui tombe...
Rivière et affluent.
Et affluent, tous les petits ruisseaux, tout ce qui amène l'eau à l'Orbieu fait partie du bassin versant. Donc géographiquement, il est très facile de le délimiter parce que, évidemment, tout ce qui tombe sur ces contrées-là va vers l'Orbieu. Et à ce moment-là, ça forme le bassin versant.
Voilà. Et votre bassin versant, c'est l'Orbieu jour.
Alors oui, parce que avant il y avait deux syndicats. Hein. Il y avait le syndicat des jours. Alors jour de Lézignan qui vient à Canet, Foncouverte, Cognac-Canet, et les jours d'escale. Et puis il y avait le bassin de l'Orbieu, le syndicat de l'Orbieu. Et les deux ont fusionné, puisqu'il y a eu une fusion, et on a réduit, je crois, on est aujourd'hui 7 à 8 syndicats uniquement dans l'Aude. Et donc on a fusionné et on forme le syndicat Orbieu jour.
Alors Orbieu prend sa source dans les Corbières.
Ah oui, dans les Hautes Corbières là-haut. Hein.
Hautes Corbières, oui. La jour ou les jours dans la Larique, c'est ça?
Alors les jours, celle qui passe, qui va transiter par Foncouverte d'abord, Cognac ensuite, Lézignan et puis Canet, elle prend sa source dans la Larique. Et elle va donc se jeter dans Aude, au niveau de Canet.
Alors, on va revenir sur ce territoire tel que vous l'avez défini, André Hernandez, mais ajoutons que tous ces bassins versants se retrouvent dans le SMAR, qui est une sorte de fédération audoise de tous ces bassins.
Alors, le SMAR, qui est à Carcassonne, qui est une institution évidemment précieuse pour nous, D'abord parce que Marcel Reynaud, à l'époque, a eu l'idée de fédérer d'abord toutes les communes de l'Aude, que toutes les communes participent à cet élan de solidarité envers cette problématique de l'eau qui est majeure. Hein. Et donc le SMAR aujourd'hui est en capacité d'abord de suivre des dossiers, de nous conseiller, de mettre à notre disposition des techniciens qui sont performants, des ingénieurs parfois, et qui nous aident dans notre mission.
C'est un syndicat mixte également.
Voilà, c'est un syndicat mixte.
D'ailleurs, nous recevrons prochainement, alors l'année prochaine, puisqu'on va faire la trêve des confiseurs, nous recevrons Monsieur Éric Ménassy qui est
nouveau président du SMAR.
Oui, président du
SMAR. Tout à fait.
Donc on y reviendra. Mais aujourd'hui, quand on préside justement donc un bassin versant, qu'est-ce qu'on fait? En quoi ça consiste de la gestion des eaux et la prévention des inondations?
Oui. Alors ce sont deux piliers importants. On pourrait les dissocier, mais pour nous, nous devons mener à la fois des politiques pour la GEMA et des politiques pour l'API. Je vais commencer par l'API, la protection des inondations. Nous consacrons chaque année de ce qu'on appelle des travaux de ripisylve, c'est-à-dire des travaux qui vont permettre sur les cours d'eau, alors, et les affluents, leur mieux, mais tous les affluents, d'enlever le bois mort, d'enlever tout ce qui traîne, des arbres qui vont peut-être tomber très prochainement, de traiter sur la rivière des graviers qu'il y a, des petites îles qu'il y a, où il faut arracher des arbres, scarifier, etc. Donc on a tout ce travail de manière à ce que, dans le futur, il y ait de moins en moins d'embâcles qui soient transportés par les cours d'eau, voilà, et qui viennent percuter les piles de ponts, etc.
Les embâcles, c'est ce qui fait obstacle, finalement.
Qui fait souvent obstacle. Et quand les embâcles viennent taper sur les piles de ponts, d'abord, ça retient l'eau.
Ça fait des barrages.
Et puis, ça peut faire éclater même le pont lui-même. Et donc, voilà, faire en sorte qu'il y ait le moins d'embâcles possible, et tout ça, c'est enlever le bois mort, travailler sur ce qu'on appelle la ripisylve. Et l'autre dossier, quand même, qui est la GEMA, qui est aussi importante, c'est-à-dire se préoccuper du bon écoulement de la rivière. C'est-à-dire, la rivière, il faut qu'elle vive, il ne faut pas la contraindre. Et donc, c'est un gros travail pédagogique, là, que nous devons mener auprès des viticulteurs ou même des riverains de ces rivières-là, qui sont souvent propriétaires, hein, parce qu'il y a des talus qui font obstacle, parce qu'il y a des vignes qui s'érodent, que nous devons acheter pour essayer, pour que la rivière prenne des matériaux, parce que nous avons un gros déficit dans nos rivières de gravier, qui a été extrait au cours de longues années. Et donc, si aujourd'hui on est en capacité de mettre des galets,
des graviers,
je cherchais le mot. Ça permet à la rivière de ralentir son flux lorsqu'il y a des inondations. Et ça, c'est ce que nous voulons. Et donc, si vous voulez, c'est tout un travail pour essayer de ralentir le cours d'eau de manière à ce que, à l'aval, il n'y ait pas de forts dégâts.
On s'aperçoit donc aujourd'hui, une rivière, c'est quelque chose qu'il faut gérer tout autant que des routes, finalement.
C'est très vivant. Ça, et en même temps, la rivière, elle bouge. Elle n'est jamais à la même place. On le voit, il y a des falaises qui se forment, des éboulements. Vous le voyez dans nos villages, souvent, la rivière occupait un espace à une époque. C'est plus le même aujourd'hui. Le lit change. Donc, et nous devons faire en sorte, justement, de lui permettre cette mobilité, qu'elle trouve la mobilité pour aller dans le bon endroit, et s'il y a des obstacles, des forts méandres, peut-être les couper, etc., faire en sorte qu'il y ait des zones de ralentissement, peut-être des bassins de rétention des eaux, mais surtout aussi, et je veux le dire parce que c'est primordial pour les inondations, et à faire comprendre aux personnes, c'est que nous souhaitons que l'eau puisse s'étendre, qu'elle soit étale. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous pouvez inonder des contrées entières, elle n'est pas dans le ruisseau lui-même, et donc elle vient amoindrir justement ce fort courant.
Le flot est moins violent, forcément.
Exactement.
Oui, ça c'est un changement de culture, parce qu'à une époque, on encaissait les rivières.
Alors oui, et souvent d'ailleurs, on se heurte à cette incompréhension des personnes. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un gros travail pédagogique. On s'imagine souvent qu'il faut creuser, enfoncer la rivière, qu'il faut mettre des murs avec des gros rochers sur les côtés, etc. Et donc, effectivement, quand on fait ce genre de choses, on met en danger tous les gens qui sont en aval. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est de permettre à la rivière, là où elle peut, là où il n'y a pas d'enjeu, justement, de déborder, puisque l'eau peut rester quand même dans les vignes. Il est plus important de protéger les populations que de protéger des vignes, parce que même chez nous, l'eau dans les vignes ne reste qu'un jour, deux jours, certaines peut-être davantage, mais chacun peut comprendre que l'essentiel, c'est de protéger les populations.
Le poids des dégâts n'est pas le même, quoi.
Tout à fait.
Un tout dernier mot, André Hernandez. Alors, Vous êtes depuis toujours au Parti socialiste, vous l'êtes encore,
j'imagine. Oui. Oui.
Alors aujourd'hui, vous avez peut-être une sorte de paradoxe à vivre qui est le suivant. Le Parti socialiste, on l'a vu, a fort bien résisté aux élections régionales et départementales récentes. Sur le plan national, au contraire, c'est un parti qui a beaucoup de mal à suivre.
Je vous le confirme.
Alors comment vivez-vous, vous personnellement, quand on est militant et engagé, cette espèce d'écartèlement, quoi? Est-ce que ça change votre regard sur l'action à mener au niveau local?
Alors, je vous dirais que, personnellement, pour moi, c'est parler d'être de gauche. C'est-à-dire d'avoir un idéal de gauche, avec les valeurs de gauche. Et ça, je pense que ça ne mourra jamais. Alors peut-être ça se formalisera d'une autre façon, peut-être que ce sera par des unions, etc., peut-être que ce sera par une refonte, mais je crois fondamentalement que dans notre pays, démocratiquement, il faut que et la droite et la gauche existent. Il faut que ce balai démocratique, qu'on voit d'ailleurs dans les grandes démocraties, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, on voit que ce balancement entre et favorable et bénéfique pour la vie démocratique. Et donc, les valeurs de gauche, même si aujourd'hui, comme vous l'avez dit, et je ne peux que le confirmer, les sondages ne donnent pas grand espoir, mais je suis sûr qu'il y a toujours ces valeurs, et qu'elles sont ancrées dans nous, et qu'elles trouveront, de toute façon, une issue.
Oui, c'est une sorte de respiration de la démocratie.
Il la faut, la respiration démocratique, il la faut. D'ailleurs, moi, je la respecte tout à fait. Dès lors que c'est un autre parti qui a le pouvoir, il faut le respecter parce que il peut apporter certaines choses, mais ce balancement entre l'un et l'autre, c'est deux poumons qui sont indispensables pour
la
démocratie.
Voilà, l'alternance, finalement, c'est ça qui permet de supporter ou de rendre la démocratie le moins mauvais des systèmes.
Oui, parce que vous vous apercevez que quand la gauche est au pouvoir, elle a fait de grandes choses. Sur les congés payés, enfin, j'en passe. Et la droite a pu faire des grandes choses aussi. Qu'aujourd'hui, il y a à voir comment un pays, en se forgeant sur les idées des uns et les idées des autres, peut avancer de manière à ce que, évidemment, nos enfants, parce qu'il faut penser à nos enfants, trouvent une société quand même beaucoup plus confortable que ce que l'avenir nous prédit. Parce que, franchement, je suis très inquiet sur l'évolution sociétale des choses. Il y a beaucoup de choses qui m'interrogent. Je le vois en tant que maire, où il faut de plus en plus mettre des caméras, où il faut en plus se prévenir, où il faut... Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, et on le voit dans les faits de tous les jours, qu'il y a quand même à se préoccuper de cet avenir.
Eh bien, ça, c'est un autre débat, peut-être pour une prochaine émission. En tout cas, merci André Hernandez d'être venu.
C'est moi qui vous remercie, c'est moi.
Faire le point sur l'ensemble de vos casquettes, c'est comme ça que l'on dit familièrement également. Notre prochain invité, alors on va marquer la trêve des confiseurs, c'est habituel. Nous le retrouverons en janvier et le prochain invité sera Éric Ménassy. Alors on a parlé du SMAR tout à l'heure. Il est Monsieur Ménassy, maire de Trèbes, entre autres président du SMAR, syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières. C'est-à-dire on revient dans les bassins versants et dans la gestion de l'eau. Merci André Hernandez. Et aux auditeurs, non pas la semaine prochaine, mais à l'année prochaine.
Et encore merci à vous.